Bonjour, aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Vert et virage. Au programme, dehors les plantes. Les frontières de Pascal Bussière. La ménopause dans tous ses états. Et voyage au cœur de l'artichaut. Bonne écoute.
Dehors les plantes, un texte d'Émilie Gabien, paru au printemps 2023 dans le magazine Vert. Nos plantes d'intérieur aiment passer la saison estivale à l'extérieur. Tout comme nous, plusieurs plantes sont des candidates idéales pour décorer votre balcon, votre terrasse ou votre pavillon et profiteront grandement de se prélasser sous le soleil. Mais comment procéder pour qu'elles passent un bel été? La grande question, pourquoi les sortir? Les conditions intérieures pour la croissance de nos plantes sont rarement optimales. L'air de nos maisons est plutôt sec, surtout en hiver. Les systèmes de chauffage sont nécessaires pour notre confort, mais les plantes en souffrent et ne sont souvent pas en pleine forme quand l'hiver est terminé. L'ajout d'un humidificateur près de celles-ci peut contribuer à leur donner meilleure mine, mais rien n'égalera une sortie au grand air pendant la période estivale. Les plantes profiteront ainsi du soleil et de douches fréquentes pour laver leur feuillage grâce à la pluie. Voyons voir maintenant quelles plantes demandent un séjour à l'extérieur en été pour déployer leur plein potentiel. Dehors, c'est impératif. Plusieurs plantes tropicales qui fleurissent passent un bien meilleur moment l'été à l'extérieur plutôt que confinées à l'intérieur. Elles profiteront alors d'une luminosité plus intense et leur croissance s'accélérera. Les hibiscus et les lauriers sont souvent sauvés in extremis à l'automne lorsque rentrés un peu trop tard. Ils ont alors perdu leurs feuilles lors de la rentrée et connu une croissance chétive pendant la période hivernale. L'ensoleillement plus long semble promettre de jours meilleurs, mais c'est une sortie à l'extérieur, une fois l'été arrivé, qui leur fera le plus grand bien. De nouvelles feuilles apparaîtront et les fleurs s'imposeront d'elles-mêmes. Les mandévilla, bougainvilliers et passiflores adoreront aussi leur passage à l'extérieur. Tous les plants d'agrumes bénéficieront d'un bain de soleil sur votre balcon ou votre terrasse pour parfumer agréablement les alentours. Les fleurs seront aussi plus facilement pollinisées par les insectes et les fruits naîtront sur vos petits arbustes. Il suffira de les rentrer en septembre, lorsque les nuits deviendront plus fraîches que 10 degrés centigrades. Les fruits pourront alors continuer leur mûrissement à l'intérieur. Quel bonheur de consommer ses propres citrons ou limes! Les palmiers Majesty sont souvent vendus au printemps pour décorer les terrasses et les bords de piscine et leur conférer un air tropical. Vous voulez faire différent? L'oiseau du paradis, Strelidia, la sansevière, Sansevieria, ou le figuier lyre, Ficus lyrata, peuvent très bien les remplacer pour magnifier votre environnement. Il suffit de penser à les transporter dans la maison en septembre, avant les grands froids nocturnes, et vous pourrez profiter de belles grosses plantes à l'intérieur tout l'hiver. Plusieurs autres plantes profiteront d'un séjour à l'extérieur. En voici quelques-unes. Agave et aloès, crassula, cactus et succulente, yucca, croton, fougère de Boston, parfaite pour les terrasses ombragées, bégonia rex, caladium, tillandsias, les suspendre dans un arbre. Comment acclimater ces plantes tropicales à l'extérieur? Avant de sortir des plantes tropicales à l'extérieur, il est très important de les acclimater en douceur. L'acclimatation est l'adaptation graduelle à l'environnement extérieur d'un plant cultivé à l'intérieur. Pour réussir cette étape, sortez d'abord les plantes que vous souhaitez acclimater lors des belles journées de printemps. Exécutez-vous le matin et placez-les dans un endroit plutôt ombragé pour la journée. Puis, rentrez-les le soir. Elles seront ainsi exposées à plus de soleil qu'à l'intérieur, mais de façon graduelle. Jouez à entrer et sortir les plantes jusqu'à ce que la température soit assez clémente pour les laisser jour et nuit à l'extérieur. Toutes les plantes d'intérieur qui passeront l'été à l'extérieur, palmiers, hibiscus, lauriers, fougères, etc., doivent passer par cette étape, au risque de voir leur feuillage subir des coups de soleil. Ceci se manifeste par des feuilles qui deviennent blanchâtres, presque translucides. Ce sont les feuilles qui sont exposées directement au soleil qui sont souvent les plus abîmées. Si cela vous arrive, il suffit de les couper et de fertiliser votre plante avec un engrais tout usage pour favoriser la croissance de nouvelles feuilles. Est-ce que toutes les plantes profitent d'un été à l'extérieur? Pas toutes, non. Les plantes à feuillage velu, comme les violettes africaines, préfèrent rester à l'intérieur, tout comme les calatheas, les marantas et les stromantes, qui possèdent un feuillage plus délicat. Certaines fougères au feuillage très fragile devraient aussi passer tout leur temps dans la maison. Le truc d'Émilie. Saviez-vous que certaines plantes d'intérieur ont le pouvoir d'apporter une jolie touche à vos boîtes à fleurs ou à vos jardinières? Ma préférée, la plante araignée. Facile à multiplier, presque à l'infini. Les bébés s'enracinent et poussent rapidement. Pour accompagner des annuels dans les endroits mi-ombragés ou ombragés, il s'agit d'une plante exceptionnelle. Elle ajoute de la lumière dans vos créations végétales. Mon mélange préféré? Des impatiens de Nouvelle-Guinée ou des bégonias, des plantes araignées et des lières qui descendent le long des boîtes à fleurs. C'était « Dehors les plantes », un texte d'Émilie Gabia, paru au printemps 2023 dans le magazine Vert. Les frontières de Pascal Bussière. Un texte de Michel Lemieux, paru le 6 mars 2023 dans le magazine Virage. Pascal Bussière tient la vedette dans le film Frontières de Guy Hédouin. Elle campe un personnage ambigu qui brouille les limites entre la réalité et l'au-delà, le tangible et l'intangible, la raison et la folie. Elle marche sur différentes frontières, telle une funambule, dévoile Pascal Bussière au sujet de son personnage, Diane Messi. On peut parler ici de choc post-traumatique. Le titre fait aussi écho à une frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis, explique la comédienne lors d'une entrevue accordée à Virage. Des prisonniers ont pris la fuite. Une certaine paranoïa s'installe et ajoute à l'état extrêmement précaire de mon personnage. C'est aussi un film sur la filiation, la force sororale et familiale. Mère et fille sont soudées dans l'adversité. Une troisième collaboration. Ce thriller psychologique confirme l'histoire d'amour professionnel entre Guy Hédouin et Pascal Bussière. Lui et moi, nous avons un passé, confirme l'actrice. Nous bâtissons sur un terrain qui a déjà été foulé. Sur le plateau, nous n'avons pas besoin de nous parler beaucoup pour nous comprendre. Je pense que c'est un avantage. Fort de ces trois collaborations, Marécage, Ville-Marie et Frontières, le duo peut tabler sur une grande complicité. Depuis Marécage, c'est un peu le même personnage qui est transposé d'une histoire à l'autre, comme un continuum, poursuit-elle. Sans verser dans la psychanalyse, c'est un peu la mère fictive de Guy. Je pense que j'incarne la mère dans son imaginaire. J'aime beaucoup la démarche de Guy, son univers singulier. Frontières a été tourné sur la terre familiale, comme Marécage. Je crois que c'est le cinquième film qu'il tourne sur la terre qu'il a vu grandir. Il la connaît par cœur. C'est un hommage à ce terreau. Mais les histoires qu'il invente n'ont rien à voir avec la sienne. Une mère spirituelle. Pascal Bussière a fait ses débuts au cinéma à l'âge de 13 ans, dans le long-métrage « Sonatine », un film réalisé par Micheline Longteau. Je la retrouve dans « Frontières » puisqu'elle joue ma mère. Dans la vraie vie, elle est ma mère spirituelle. C'est elle qui m'a donné ma première chance et qui a fait en sorte que je devienne qui je suis aujourd'hui. Elle m'a mise au monde dans ce métier. La retrouver pour jouer avec elle, c'était très symbolique pour moi. Au cours de ma carrière, j'ai joué dans 3 de ses films, Sonatine, mais aussi 2 actrices et Suzy. Nous nous sommes aussi croisés à quelques reprises dans le métier, notamment dans Belle B, série dans laquelle elle tenait le rôle de ma mère. Forte de ses 40 ans de carrière, l'actrice choisit maintenant ses projets autrement. Je veux faire des choses qui résonnent, qui ont un sens, une profondeur, une intention qui me paraissent justes. C'est évident qu'il faut aussi gagner sa vie. On n'a pas toujours le choix, mais quand c'est possible, je favorise les projets qui ont un écho d'intelligence, de pertinence. J'aime aussi partir à l'aventure, m'engager dans des projets expérimentaux. Ma nature profonde en celle d'une exploratrice, j'aime me retrouver en terrain inconnu. En parallèle, elle a aussi des projets d'écriture sur lesquels elle travaille depuis un moment. J'aimerais trouver le temps et l'énergie pour que ces projets prennent forme. C'est beaucoup de temps de gestation, de maturation. J'aime beaucoup mon travail d'actrice, mais le travail de création, en amont et en aval, m'intéresse aussi beaucoup. De l'écriture au montage, chaque étape est extraordinaire. Mais c'est le parcours du combattant. Il faut avoir du souffle. Un milieu en mouvance. L'interprète de Diane, qui a vu le métier se transformer depuis 4 décennies, constate une évolution notable au sein du milieu. « Ça fait 40 ans que je fais mon métier », rappelle-t-elle. À mes débuts, il y avait peu de femmes réalisatrices. Aux côtés d'une poignée de femmes au Québec, Micheline Longteau était l'exception. Aujourd'hui, il y a plusieurs femmes réalisatrices, autrices, monteuses, productrices. Elle remarque que la représentativité des femmes dans le milieu est plus grande que jamais et qu'elles peuvent désormais travailler au-delà de 40 ans. Lorsque j'ai débuté dans ce métier, les femmes qui atteignaient la quarantaine connaissaient un gros creux de carrière, ce qui est beaucoup moins le cas de nos jours. Depuis quelques années, beaucoup de rôles intéressants sont portés par des femmes. Pour décrocher et prendre du recul sur son métier, l'actrice se consacre à ses passions. Je dessine, je peins, je fabrique des lampes. J'aime beaucoup la lumière, le textile. Je fais aussi de la musique avec mes amis. Je fais du sport, j'habite à la campagne. Je pratique des activités de plein air, je fais du ski de fond. Tout cela est nécessaire à mon équilibre mental, conclut-elle. C'était « Les frontières de Pascal Bussière », un texte de Michel Lemieux, paru le 6 mars 2023 dans le magazine Virage. La ménopause dans tous ses états. Un texte de Michel Lemieux, paru le 9 janvier 2023 dans le magazine Virage. La ménopause s'accompagne d'une kyrielle de symptômes qui affectent la plupart des femmes. Afin de les aider durant cette étape singulière, Isabelle Huot et la docteure Lynn Desautels viennent de lancer « Mieux vivre la ménopause » aux éditions de l'Homme. L'idée de faire un guide pratico-pratique sur la ménopause ne date pas d'hier pour Isabelle Huot, qui a vu défiler dans sa clinique nombre de femmes aux prises avec différents symptômes. « J'ai toujours eu envie d'aborder ce sujet », dit la docteure en nutrition. « Dans mes cliniques, combien de femmes j'ai reçues qui trouvaient difficile de composer avec le gain de poids abdominal, la perte de cheveux, l'insomnie, l'irritabilité et tous les autres symptômes qui viennent avec la ménopause ?» Isabelle Huot s'est donc adressée à la docteure Lynn Desautels, une véritable référence dans le domaine de l'hormonothérapie. C'était sa meilleure alliée pour coécrire ce livre publié aux éditions de l'Homme, dont l'objectif est d'aider les femmes dans leur quotidien. Des solutions pour toutes. La docteure en nutrition et la docteure des hôtels offrent des solutions aux femmes à travers l'alimentation, l'hormonothérapie, l'activité physique et tout ce qui peut s'avérer utile dans l'apaisement ou l'allègement des différents symptômes qui accompagnent cette période de vie. Chaque symptôme ménopausal a été décortiqué pour identifier les meilleurs outils pour l'alléger en dehors de la médication. Le rôle des hormones et leurs interrelations sont bien documentés et vulgarisés. On évoque régulièrement le rôle des estrogènes et de la progestérone, mais qu'en est-il des autres hormones telles que la testostérone ou l'impact d'un débalancement hormonal? On comprend l'importance de mesurer les hormones en circulation pour adopter des stratégies médicales et nutritionnelles adaptées. Ce livre éclaire aussi les femmes qui ne sont pas nécessairement en ménopause. En mode prévention. Les auteurs ont toutes deux consulté les plus récentes études scientifiques afin d'offrir un point de vue actualisé sur la question. La science évolue constamment, confirme Isabelle Huotte. Il faut se tenir à jour, notamment par le biais des grandes revues de littérature. Nous traitons de chaque symptôme, mais également de prévention pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Elle mentionne par exemple que les maladies cardiovasculaires touchent énormément de femmes dès la ménopause et provoquent plus de décès que tous les cancers réunis. Mieux vivre la ménopause propose des conseils sur les habitudes de vie, des tableaux pratiques avec les meilleures sources des nutriments clés pour les femmes en ménopause, les quantités à prendre, les aliments beauté et plus encore, énumère-t-elle. Les conseils d'Isabelle Huotte. 1. Adopter le régime méditerranéen réputé au niveau de la santé cognitive, mentale, etc. Plusieurs symptômes sont allégés par l'adoption de ce régime. 2. Intégrer du soya au quotidien, tofu, fèves edamame, tempeh, etc. 3. Prendre quotidiennement 15 ml, une cuillère à soupe de graines de lin pour leur richesse en phytoestrogènes. 4. Faire de l'activité physique chaque jour. Les femmes en ménopause bougent moins, faute d'énergie et de sommeil suffisant. Pour diminuer les bouffées de chaleur et améliorer la santé cardiovasculaire et mentale. 5. Penser à sa santé osseuse, calcium et vitamine D. Les conseils de la docteure des hôtels. 1. Prendre soin de soi en adoptant de saines habitudes de vie. 2. Penser hormones dès la trentaine pour maintenir un équilibre hormonal le plus longtemps possible afin de se préparer à la préménopause et à la ménopause. Cette période tumultueuse pour certaines femmes affecte plusieurs systèmes et leur qualité de vie. 3. S'informer sur le rôle des hormones si l'on éprouve certains symptômes pouvant résulter d'un déséquilibre hormonal. Apprendre à mieux se connaître en matière d'hormones. 4. Aller chercher de l'aide si les symptômes de la ménopause rendent dysfonctionnelle ou malheureuse. 5. Ne pas désespérer. Il y a des solutions qui permettent de se retrouver avec soi-même. La ménopause n'est pas une maladie et on a plus de pouvoir qu'on le pense sur notre équilibre hormonal et notre santé. Webinaire de présentation gratuit. Par ailleurs, en collaboration avec Chantal Lacroix, Isabelle Huotte a mis sur pied SOS Ménopause, un programme en ligne de 8 semaines pour vivre le mieux possible cette période de transition. Je voulais offrir aux femmes le meilleur encadrement et le meilleur accompagnement possible en rassemblant des experts dans leur domaine, notamment une psychologue spécialisée, un docteur en kinésiologie et un docteur en biologie expert du vieillissement, résume Madame Huotte. C'était « La ménopause dans tous ses états », un texte de Michel Lemieux paru le 9 janvier 2023 dans le magazine Virage. Voyage au cœur de l'artichaut. un texte de Guillaume Pellan, paru au printemps 2023 dans le magazine Vert. Sa carapace garde en retrait les prédateurs les plus voraces, tout en faisant de l'effet aux mangeurs les plus coriaces. Au fond de son feuillage se cache un cœur tendre, forcément complexe, marqué par un caractère amer avant d'être blanchi. Une saveur singulière, un doux régal pour ceux et celles qui savent s'y prendre. L'artichaut, un légume royal. Le bouton surdimensionné qui compose l'artichaut résulte d'une sélection des plus grosses fleurs du chardon sauvage par des générations de cultivateurs. Pas très cher à cultiver, c'est toutefois l'espace nécessaire pour l'intégrer à votre potager qui peut être un frein. Mais l'expérience saura vous satisfaire si la chaleur et le soleil sont au rendez-vous, si la saison ne s'écourte pas trop, si le sol est suffisamment profond et généreux et si l'humidité, sans être excessive, est présente. De plus, avec une bonne couche de paillis, vous enlèverez un stress pour vous et vos artichauts. Vivace rustique en zone 7, vous pouvez tenter de la pérenniser à grand renfort de paillis au moins quelques années, si le temps le permet. Cette expérience sera plus accessible dans un microclimat urbain ou côtier, à moins d'avoir une serre. Puissance ornementale. Votre jardin s'enrichira du style baroque de cette plante au feuillage bleuté et aux inflorescences hérissées vert de gris. Si elles ne sont pas récoltées, ces dernières font naître des fleurs ultraviolettes qui attireront les papillons. De quoi boucher un trou avec style dans la plate-bande. Variété recommandée. Taver ou Imperial Star. Vernalisation, période de froid nécessaire, courte. 80% des plants enclins à fleurir après 200 heures à 10 degrés ou moins. Point culminant, 90 cm de hauteur, 35,43 pouces. Largeur, jusqu'à 1 mètre, 39,37 pouces. Récolte variable, une à deux têtes principales de 7 à 10 cm, en plus de quelques oreilles plus petites. Date de démarrage des semis, de 8 à 12 semaines avant le dernier gel. Date de plantation, de 2 à 3 semaines avant le dernier gel. Nombre de jours avant la récolte, 85 jours, parfois plus, jamais moins. Dose de compost, généreuse. Une technique à connaître. Difficile de garantir un rendement nordique avec l'artichaut. Pour que la plante puisse s'exprimer pleinement au Québec, il faut semer des variétés développées pour une culture annuelle, à condition de tricher un peu en stimulant un hiver par la vernalisation. Pour effectuer la vernalisation, démarrez les semis à l'intérieur au moins 4 semaines avant de les sortir. Synchronisez l'opération avec le moment où les nuits ne tombent que légèrement sous zéro. Le jeu consiste à exposer les jeunes plants au froid, au moins 10 jours sous 10 degrés, quitte à leur faire vivre quelques gels légers, période pendant laquelle vous serez à l'affût tout de même et les abriterez en cas de surprise glaciale. La méthode de la plantation précoce pourrait aussi forcer une vernalisation, à condition que les températures soient suffisamment froides suivant la plantation, faute de quoi les plants risquent de pourrir avant de fleurir. Astuce. Pour ceux qui ne veulent pas brusquer les choses, essayez les boutons de fleurs de tournesol offerts avec une garantie nord-américaine pour une expérience culinaire comparable à l'artichaut, sans le tracas. À l'heure de la récolte, votre sens de l'observation vous aidera, après quelques essais, à cueillir les têtes d'artichaut au bon moment, après les avoir semées, vernalisées, puis transplantées aussi au bon moment. Et vous attendrez, si vous les voulez frais, la saison de dégustation de ce produit d'exception qui est relativement courte. Pour éviter tout regret, prenez l'artichaut encore ferme, les feuilles bien serrées. Elles resteront fraîches et cassantes pendant 1 semaine au frais. La tige dans l'eau. Pour éviter que vos artichauts ne s'oxydent et noircissent, frottez-les avec un citron ou baignez-les dans de l'eau vinaigrée, sinon badigeonnez-les d'huile. Ils seront délicieux sautés au vin blanc, farcis avec des tomates et des pignons, frits à l'huile avec des champignons ou simplement à la vapeur, tels quels, ou transformés en caviar tartinable. Quant au fond d'artichaut, ce qu'il vous reste une fois les écailles enlevées, comme fond de tartelette, ils font de petits tapas pratiques à l'apéro. Une fois blanchis, les pétioles sont croquants comme un céleri. Dans une optique zéro gaspillage, le reste de la récolte pourra servir à concocter un savoureux bouillon. Le truc de Guillaume, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Sur la même planche, entre les pieds d'artichaut distancés d'environ 80 cm, semez des gourganes ou des épinards tôt au printemps ou plus tard, des haricots ou des pois qui compenseront sa gourmandise en fixant l'azote atmosphérique. L'association gagnante avec l'aubergine harmonise les fleurs du même ton et magnifie le chou rouge ou le chou maritime vivace, bleu pur, jamais ravagé. C'était « Voyage au cœur de l'artichaut », un texte de Guillaume Pellan paru au printemps 2023 dans le magazine Vert.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.